Midi 31 sur France Culture. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le contenu des ordonnances qui réformeront le Code du travail sera dévoilé demain. Dernier état des négociations. Dans un instant, avec Sophie Delpont, on sera en ligne aussi avec Fabrice Angéi, secrétaire confédéral de la CGT, qui est en charge des négociations de cette loi travail. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, doit lui préciser quelques mesures fiscales en faveur des entreprises. Le taux de l'impôt sur les sociétés sera abaissé de 33 à 28%. Explication et précision avec Justine Dinchet, commentaire politique de Stéphane Robert. Vers une transformation importante de la construction européenne, Emmanuel Macron plaide une nouvelle fois pour une Europe à plusieurs formats, tirée, dit-il, par une avant-garde de pays qui voudront aller plus loin dans la convergence de leur économie et de leur politique. Commentaire de Frédéric Saïs. Et puis Radio France se lance dans le sur-mesure avec un programme de radio à la carte. Le service s'appelle Un Monde de Radio France. Explication d'Éric Chavroux dans la dernière partie de La Grande Table. Olivia Jesbert.
Je salue d'abord l'invité de la deuxième partie, le philosophe Régis Debray, qui nous a rejoint et qui publie aujourd'hui Le Nouveau Pouvoir aux éditions du Cerf, un court essai dans lequel il revient sur ce moment Macron, les changements en cours surtout, et où le directeur de la revue Medium imagine l'avenir. Il sera avec nous à partir de 12h55.
Voilà, et également dans ce journal. Donc le contenu précis de ces fameuses ordonnances qui réformeront le Code du travail va être dévoilé demain. Les textes sont prêts, ils semblent inspirer dans l'opinion un sentiment plutôt paradoxal que reflète ce matin une enquête de l'Institut OpinionWay. D'un côté, 63% des personnes interrogées estiment que le Code actuel est inadapté au monde du travail, mais de l'autre, elles sont plus nombreuses encore, ces personnes interrogées, à penser que leur patron va profiter de cette réforme pour réduire leurs droits. Ce serait donc une nécessaire détérioration finalement des conditions de travail. Est-ce qu'elle sera acceptée comme telle, cette réforme? Tout va se jouer dans ce mois de septembre qui va commencer. Tout dépendra d'abord du texte que on va connaître demain. La question étant de savoir s'il va franchir ou non, de quelle façon, les lignes rouges posées par les syndicats. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Alors à la lumière de quels critères il faudra juger les textes demain?
Parmi les points chauds des 5 ordonnances de la réforme, il y a bien sûr la hiérarchie des normes. Quelle sera précisément l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise, une ligne rouge qui sera scrutée de près. Parmi les autres axes au potentiel explosif, il y a les indemnités prud'homales et la question du plancher et du plafond de ces indemnités en cas de licenciement abusif. Autre pomme de discorde, l'élargissement du CDI de chantier, contrat à durée indéterminée lié à une mission précise. Enfin, l'enjeu du dialogue social dans les PME qui n'ont pas de représentants syndicaux. À partir de quel seuil un délégué du personnel pourra-t-il négocier directement avec la direction? Cette mesure semblerait actée pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais le gouvernement laisse planer le doute sur les sociétés de 50 à 300 salariés.
Quelle que soit l'ampleur du mouvement de contestation, la riposte politique au syndical a d'ores et déjà son calendrier.
Le premier rendez-vous est donné le 12 septembre, grève et manifestation à l'appel de la CGT et de Sud. Le Parti communiste et le Parti socialiste appellent à y manifester, ainsi que la France insoumise, même si Jean-Luc Mélenchon privilégie l'appel à manifester le 23 septembre, journée d'action à Paris de la France insoumise, second rassemblement national prévu contre les ordonnances. Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, souhaite mettre l'ensemble de la fête de l'humanité du 15 au 17 septembre prochain à disposition des opposants aux ordonnances. Mais concernant une participation à la journée du 23 septembre, il répond « on verra », tout comme le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, ce matin. La division règne encore dans les rangs de l'opposition aux ordonnances ce matin.
Sophie Delpont, merci beaucoup. Justement, on est en ligne avec le secrétaire confédéral de la CGT en charge de la loi travail, Fabrice Angéi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Les ordonnances sont donc maintenant rédigées, j'imagine, puisque c'est demain qu'elles vont être dévoilées. Est-ce que vous en connaissez la dernière mouture?
On le suppose. On ne connaît ni la première ni la dernière mouture. Nous n'avons pas ce jour de texte. Le texte des ordonnances ne nous a pas encore été transmis.
Il y a quand même eu plusieurs séances de négociation. Donc, c'est plus que des détails. Éventuellement, vous ne connaissez pas ou plus?
Oui, oui, on connaît les grands principes. Hein. On connaît les grands principes. Je reviens sur le terme négociation. Il y a eu plusieurs séances de discussion. En tout, 7 heures et demie pour 130 ans de remise en cause sur le travail.
Alors, donc, la tendance?
La tendance est bien une tendance de régression pour des droits pour les salariés. En clair, ce qu'on a eu dans les grands principes, c'est précarisation des salariés, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, CDI de chantier étendu à toutes les activités, facilité pour le licenciement, à la fois des accords d'entreprise qui s'imposent sur le contrat de travail, à la fois des indemnités, une barémisation des indemnités, mais aussi le regard, le seul périmètre national par rapport à un groupe international pour juger des difficultés économiques. Donc on voit bien que l'ensemble des mesures vont pour faciliter le licenciement, et faciliter le licenciement ne crée pas d'emploi.
C'est la tendance générale. Bon, il reste encore quelques points à éclaircir, les fameuses lignes rouges. Oui. Alors, Pierre Gattaz, par exemple, disait hier que tout va être dans le détail. Il faut que l'écriture de ces ordonnances soit simple et lisible, qu'il n'y ait pas 1000 contreparties, 1000 contraintes, 1000 exceptions aux règles qui vont être édictées. Bon, à part le fond, vous êtes quand même d'accord avec l'idée que tout va se jouer maintenant, peut-être encore sur les détails que vous attendez demain?
Voilà, nous espérons demain donc que les grands principes, que tous les arbitrages soient dévoilés, et donc on réclamait ce multilatéral. Le gouvernement y a été contraint de la tenir, et donc voilà, on va apprécier que d'avoir pour une fois le même discours retransmis à tout le monde au même moment autour de la même table.
Voilà, ça sera l'heure de vérité demain matin, donc on en rendra compte évidemment. Demain, dans cette édition, Fabrice Angéhi, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous.
On connaît maintenant, Antoine Mercier, les grandes lignes du projet du gouvernement pour alléger l'ISF et la fiscalité des entreprises.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, va préciser tout à l'heure ces mesures fiscales envisagées donc pour les entreprises. Le taux de l'impôt sur les sociétés qui va être abaissé de 33 à 28%. L'impôt sur la fortune qui ne va plus concerner que l'immobilier. Et encore l'immobilier, donc hors professionnel. Le manque à gagner pour l'État est estimé à 3 milliards d'euros. Justine Dinchet, vous avez quelques précisions.
Oui, Bruno Le Maire dévoilera donc en fin d'après-midi, en clôture de l'Université du MEDEF, sa feuille de route. Un plan qui a pour objectif non dissimulé d'aider les entreprises soit à s'implanter, soit à se développer afin de tonifier l'économie française. Plusieurs pistes de travail semblent se confirmer, s'affiner. Le gouvernement devrait effectivement abandonner l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, serait remplacé par un impôt sur la fortune immobilière qui prendra seulement en compte les biens immobiliers hors professionnels. Toutes les valeurs mobilières comme les actions ou les obligations ne seront plus assujetties à cet impôt. Autre proposition en faveur des patrons, la transformation du CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, en allègement de charges avec un taux abaissé de 7 à 6% et la réduction de l'impôt sur les sociétés aujourd'hui à 33%. Il devrait être ramené à 25% d'ici 2022. Enfin, c'est la fiscalité de l'assurance vie qui devrait également changer. Le but, inciter les Français à réinjecter leur argent ailleurs et moins longtemps. Alors concrètement, pour ceux qui détiennent plus de 150 000 euros sur leur contrat, la taxation pourrait grimper à 30% dès la première année de détention. C'est la mise en place de ce qu'Emmanuel Macron appelle la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique. Notez que cette mesure ne concernerait pas les épargnants les plus petits, ceux qui possèdent moins de 150 000 euros sur leur contrat.
Justine Dinchet, merci beaucoup. Voilà de quoi satisfaire sans doute en partie le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, qui exhortait Emmanuel Macron hier à aller jusqu'au bout de ses réformes. Les ordonnances sur le droit du travail et ses mesures fiscales seront pour M. Gattaz les principaux curseurs de ce quinquennat. Le responsable patronal assurait que les chefs d'entreprise, en tout cas, étaient disposés à accompagner le gouvernement dans la transformation du modèle tricolore. Transformation, le mot est d'ailleurs repris par l'exécutif maintenant dans plusieurs discours. En début de semaine, par exemple, le Premier ministre déclarait que le pays avait besoin de transformation. Le gouvernement veut commencer à réparer le pays, à engager une politique de transformation ambitieuse. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Il y a une transformation, donc c'est ce mot de transformation qui est utilisé de préférence apparemment à celui de réforme. Comment est-ce qu'on peut lire ce changement d'appellation?
C'est un mot qui est au cœur de la volonté du président de la République de reprendre la main face à la forte baisse de popularité de l'exécutif enregistrée en cette rentrée par toutes les enquêtes d'opinion. Mot, vous l'avez dit, qui a été largement repris par le Premier ministre Édouard Philippe quand il a fait le compte-rendu du séminaire gouvernemental qui s'est déroulé lundi. Un mot qui était au préalable réapparu dans la bouche du chef de l'État la semaine dernière à l'occasion de sa visite en Roumanie. Après avoir affirmé que les Français détestent les réformes, il avait expliqué qu'il fallait plutôt leur proposer une transformation en profondeur afin de renouer avec le destin du pays qui serait de porter un message universaliste. Et il avait déjà employé ce terme au moment de la campagne, début mars, C'était au début du mois de mars, il promettait déjà une transformation complète et radicale du pays. Alors bien sûr, il s'agit de ne plus employer le terme « réforme » qui aujourd'hui a une connotation péjorative, qui a tendance à rimer dans l'esprit des Français avec « régression sociale ». Mais il s'agit aussi et surtout pour le chef de l'État d'essayer de donner du sens à son action, de la mettre en perspective, de fixer un cap. À travers ce terme transformation, ce qu'il dit, c'est qu'il ne s'agit pas de procéder à des ajustements pour corriger ce qui devrait l'être, mais d'amorcer une modification profonde, durable du pays, afin qu'il retrouve son exemplarité, son lustre d'antan. Emmanuel Macron demande donc aux Français de ne pas juger les réformes élaborées par son gouvernement pour ce qu'elles sont, et il tente de les mettre en perspective, de les inscrire dans un projet à long terme pour essayer de réenchanter son message. Le tout maintenant est de savoir, au-delà de comment ce sera perçu par les Français, comment il réussira à faire vivre ce message et son action entre rêve et réalité.
Stéphane Robert, merci. Bonjour Régis Debré.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'invité de la dernière partie de la Grande Table. Donc Olivia le disait tout à l'heure, on est vraiment au cœur un peu de l'analyse de du nouveau pouvoir, de ce que veut faire Emmanuel Macron, donc réformer par rapport à transformer.
Écoutez, réformer, c'est répéter, c'est réparer, c'est refaire, c'est tristounet. Alors que transformer, c'est dynamique, c'est énergétique, c'est innovant, c'est plein d'allant. Donc votre conseiller en marketing, vous dira, faut pas réformer, faut transformer. Si vous lisez Challenge et Les Échos, vous comprendrez que c'est la langue qu'il faut aujourd'hui parler. Donc il me semble tout à fait naturel et à la limite bienvenu. Ça fait partie façon de reciviliser la France.
Mais quand même, avec transformation, on a quelque chose de volontaire, de volontariste qui intervient, c'est-à-dire qu'on passe d'un État à un autre, qu'on aura choisi de transformer. Est-ce que vous voyez, vous, l'État dans lequel on souhaite transformer le pays ?
Moi, je ne sais pas, je n'y connais rien. Je dis simplement que transformer, c'est optimiste.
D'accord. Vous pensez que ça reste...
Réformer, ça fait mal. C'est un peu plus douloureux.
Et que la réforme... La réforme, encore une fois, c'est mesquin, c'est tristounet, c'est passéiste. Faut vivre avec son temps, cher ami.
Merci beaucoup pour cette leçon, Régis Debray. Vous restez avec nous, on n'attendait pas moins de vous pour la suite du journal et la dernière partie de la Grande Table. Autre transformation programmée, celle de la construction européenne. Dans un discours devant les ambassadeurs hier à Paris, on s'en souvient, Emmanuel Macron avait une nouvelle fois plaidé pour une Europe à plusieurs formats, tirée par une avant-garde, l'avant-garde des pays qui voudront donc aller plus loin dans la convergence de leur économie et de leur politique. Peu après, il était aux côtés de ses partenaires belges et luxembourgeois et il affirmait que le choix était simple et ainsi le définissait-il. Est-ce que nous voulons assister au délitement de l'Europe et après les discussions qui seront forcément longue sur le Brexit, avoir des discussions sur le départ de tel ou tel autre membre, ou bien voulons-nous être la génération qui refondera l'Europe ? La position française doit être discutée dans un mois après les élections allemandes. Frédéric Seix, bonjour.
Bonjour.
En vrai, c'est quand même un changement de cap assez important pour l'Union européenne. De quoi s'agit-il précisément dans l'esprit du président ?
Alors, il prend acte d'une évolution qui a déjà plusieurs années et il accélère cette évolution. C'est le fait que l'Union européenne n'est pas un bloc monolithique dans la décision des politiques publiques, que l'unanimité n'est pas gage d'efficacité. Cette idée s'est imposée avec l'élargissement de l'Union. Il est évidemment plus difficile de trancher à 28 qu'à 6 ou qu'à 12. L'évolution s'est imposée aussi avec le désenchantement européen qui n'épargne aucun pays. Confère les résultats électoraux un peu partout avec l'essor du mouvement 5 étoiles en Italie, de UKIP en Grande-Bretagne ou du parti de Viktor Orban en Hongrie. Alors cette possibilité de décider par petits groupes existe déjà au moyen de ce qu'on appelle les coopérations renforcées prévues par le traité d'Amsterdam en 1997. Les institutions prévoient également un mécanisme de mise en retrait pour les pays qui ne seraient pas d'accord avec une décision commune à des conditions précises. C'est ce qu'on appelle dans le jargon bruxellois le mécanisme de l'opt-out, beaucoup utilisé par exemple par le Danemark. Mais ce que dit Emmanuel Macron va plus loin, il théorise et il met en pratique cette Europe à la carte avec un déplacement la semaine dernière en Autriche, une rencontre à quatre pays, Autriche, France, République tchèque, Slovaquie, pour la modification de la directive sur le travail détaché. On n'est pas du tout là dans les canons traditionnels des institutions européennes avec cette rencontre à quatre. Et si l'on comprend le président de la République, il peut y avoir autant d'alliances différentes que de sujets à traiter. On n'est donc plus dans une logique de cercle concentrique. Par exemple, les pays fondateurs à l'intérieur de la zone euro, eux-mêmes à l'intérieur de l'Union européenne, mais davantage dans des figures libres et au coup par coup. Dit comme ça, ça semble évident. Et pourtant, malgré tout, il ne faut pas oublier que la plupart des sujets économiques et sociaux nécessitent, à la fin du processus, quoi qu'il arrive, un accord unanime des membres de l'Union européenne.
Voilà, effectivement, ce n'est pas un détail. Merci beaucoup, Frédéric Seyss.
Midi 45 sur France Culture, la suite de votre journal, Antoine Mercier. On reste au chapitre des transformations, pour dire un mot de celle de la radio. Cette fois, Radio France se lance dans le sur-mesure avec un programme à la carte individualisée. Le service s'appelle Un Monde de Radio France.
Et oui, déjà disponible dans une première version qui sera optimale à compter du premier trimestre 2018. Une réponse aux nouveaux usages de la radio. Je cite donc le PDG, aux nouvelles formes de consommation. Le président du groupe, donc Mathieu Gallet, vient de révéler ses projets aux Échos, d'une part, d'autre part, dans une conférence de presse de rentrée qui vient de s'achever. Éric Chavroux, vous avez lu pour nous ses projets, vous nous décryptez.
Avec deux grandes tendances, Antoine, à mettre en parallèle, notamment l'audience radio traditionnelle, hertzienne, qui s'érode, en particulier chez les jeunes, sans baisse dramatique en France, mais de façon quasi continue, est très marquée en revanche aux États-Unis. La demande de podcasts, elle, pendant ce temps, explose. 50 millions de podcasts téléchargés par mois pour Radio France, soit trois fois plus qu'il y a trois ans. Le phénomène du replay à la carte en bon français s'accentue. Il bouleverse déjà la consommation de la télévision, du cinéma, des séries, ou de la presse écrite, avec une démultiplication d'offres à la demande personnalisées. Après les podcasts et les web radios, nous voici donc à une nouvelle étape pour la radio, celle où l'auditeur pourra, avec la nouvelle offre, un monde de Radio France, composer sa grille en ligne ou sur mobile. Un clic et vous choisissez vos programmes parmi les différentes antennes du groupe. L'idée est avant tout de s'adapter aux nouveaux usages, puisqu'il n'est pas question pour l'heure d'en tirer des revenus publicitaires, explique Mathieu Gallet dans Les Échos. Le PDG de Radio France évoque un plafond atteint par le média radio et parie sur ce qu'il considère comme une troisième révolution numérique. La voix, nouvel usage, là aussi, il s'agit d'investir les assistants vocaux, comme depuis peu Google Home, qui a été lancé en France, et qui, grâce à un partenariat, vous lance le dernier flash de France Info si vous lui demandez un point sur l'actualité. On y attend avec impatience votre journal, Antoine.
Donc alors, on dit à Google, je voudrais le dernier flash et on a le flash de France Info. C'est ça.
Voilà.
Simplement en parlant.
Dit Google, un point sur l'actualité. Laurent Frisch vous en dira plus
Laurent Frisch, directeur du numérique à Radio France, est effectivement dans ce studio. Bonjour.
Bonjour Antoine, merci. Bon,
peut-être d'abord une explication concrète pour un auditeur, les auditeurs qui nous écoutent. Comment on va faire pour se fabriquer sa propre radio à partir des programmes de Radio France ?
Déjà, il faut être conscient que chaque auditeur se fait son programme radio. Il a un appareil aujourd'hui, traditionnel ou numérique, et il a la liberté, il le fait, il se sert de cette liberté de passer d'une chaîne à l'autre en fonction des programmes, en fonction de son intérêt. Peut-être qu'il vous écoute tous les jours, peut-être une fois par semaine. Il faudrait l'inciter à l'écouter plus souvent en tout cas.
Ça, c'est vrai.
Et il le fait avec un appareil qui comprend quelques touches qui lui permettent de rentrer sa présélection de radio. Ce qu'est ce service pour nous, qu'on appelle Un Monde de Radio France, c'est une forme de grille qui va piocher une sélection des programmes des différentes antennes des 7 radios de Radio France et qui permet à un auditeur d'aller butiner et découvrir peut-être des programmes dont il deviendra, on l'espère, un auditeur fidèle à travers des choses qu'il n'a pas l'habitude d'écouter.
Concrètement, ça veut dire bon, le matin, je vais me faire ma grille du matin, par exemple, je vais prendre tiens la chronique d'un tel sur Inter, ensuite l'interview sur France Info, puis après j'aime bien aussi cette personne-là qui va s'exprimer un peu plus tard sur France Culture et je pourrais directement, tous les matins, avoir ce programme personnel, personnalisé. Est-ce que c'est ça dont il s'agit ?
Oui, le relancer chaque matin, et chaque matin...
Éventuellement, le faire évoluer, bien sûr.
Bien sûr.
Pardon, Éric Chavroux, je vous ai interrompu, alors il paraît dans votre papier, excusez-moi.
Oui, oui, parce que je voulais quand même parler de ce qui interroge, à savoir peut-être d'abord les données, la vie privée des auditeurs, puisque par exemple, Un Monde de Radio France va suggérer automatiquement informatiquement, on pourrait dire, des chroniques ou des émissions en fonction de ses goûts et des écoutes déjà réalisées. Est-ce que ça veut dire que mes goûts, mes écoutes sont enregistrés quelque part et qu'on va pouvoir me profiler, entre guillemets ?
Non, vous avez raison, Éric Chavroux. Il est temps de se préoccuper de la vie privée des internautes qui cèdent allègrement toute leur vie privée à Google et à Facebook. Radio France ne va pas sur ce terrain-là. On n'est pas là pour cerner les individus. Et d'ailleurs, on n'a pas prévu aujourd'hui de faire des propositions par des algorithmes. Ce sont des gens qui composent une grille, comme on compose des grilles de radio. Ce sont des gens qui connaissent les programmes, qui ont une sensibilité éditoriale et qui essayent de fabriquer un tout cohérent, une proposition aux auditeurs, dans lesquelles les auditeurs vont s'y retrouver ou pas, mettre de côté des émissions qu'ils veulent écouter ou pas, et peut-être devenir des auditeurs réguliers de telle ou telle chronique, telle ou telle émission.
Alors on a compris que tout était parti, enfin le constat de départ, c'est de dire l'écoute linéaire de la radio devient obsolète, en tout cas diminue fortement, notamment chez
pas,
les
enfin,
jeunes.
Pas obsolète, enfin, bon, pas obsolète. Je sais pas, en même cas... chez les jeunes. Alors chez les jeunes, oui, ça a diminué fortement, ça n'a pas disparu, c'est encore très important.
Mais alors, est-ce que c'est la fin de l'écoute linéaire? C'est ça que je vous pose la question. Est-ce que c'est la fin de l'audience, de la radio, du programme de radio qui défile comme ça au cours de la journée qu'on écoute en s'accrochant?
Chacun se fera son idée en fonction de ses pratiques personnelles. Mais aujourd'hui, les chiffres montrent que non, c'est pas du tout la fin de la linéarité, c'est-à-dire de la proposition éditoriale accompagnée aussi bien à la télévision qu'à la radio. La presse souffre, de fait. Un journal est une forme de proposition linéaire. On ne va pas piocher un article à un endroit et un autre article dans un autre titre de presse. Mais néanmoins, on voit l'écoute linéaire de la radio toujours soutenue. Simplement, à cela s'additionne, dans des temps de la journée qui n'étaient pas consacrés à la radio, d'autres formes d'usage sur Facebook, sur YouTube, de podcasts, etc. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'y trouver un peu de place pour la radio.
Alors, juste, Régis Debré, ça vous intéresserait d'avoir... comme ça, une radio à la carte pour vous, vous fabriqueriez cette
Écoutez,
radio.
Écoutez, moi, je ne saurais pas faire, mais je sais qu'il faut faire comme ça. C'est-à-dire que, au fond, l'histoire d'une société, c'est toujours la transformation d'une technique en culture. Là, il y a une nouvelle technique. Hein. En gros, c'est le numérique. Donc, en faire une culture, ça veut dire chacun son monde. Mmh. On fabrique sa grille, mais où est le monde commun?
Alors, c'est ça la question.
Et là. On débouche, si j'ose dire, sur une question de civilisation, mais je ne veux pas employer ce mot à tort et à travers.
Mais certes, je suis d'accord avec cette préoccupation, mais néanmoins, est-ce que quand on fréquente une bibliothèque, on ne se compose pas non plus soi-même son parcours à travers la littérature, les savoirs, l'histoire, etc. Chose qui était impossible, on n'a pas la bibliothèque de la radio aujourd'hui, et c'est peut-être ce qu'on essaie de composer aujourd'hui.
Non mais vous avez tout à fait raison, sauf qu'avant la bibliothèque, on est allé à l'école, où on a appris Victor Hugo.
On ne cherche pas à s'y
substituer. C'est un peu le socle de base, quoi, voilà.
Bon, le monde commun, on en reparlera. Peut-être une dernière question, Éric Chavroux?
Oui, une dernière question.
Toute dernière.
Est-ce qu'on peut arriver à savoir quelles implications ça peut avoir dans la production, dans la conception même de la radio en amont? Est-ce que ça va changer des choses ou...
Mais alors déjà, j'ai devant moi Olivia Gesbert et Antoine Mercier, oui, qui ont des ordinateurs, des claviers, des souris. Vous, Éric Chavroux, qui avez tapé votre texte sur un ordinateur et qui l'avez imprimé. Oui, ça a déjà changé la production de la radio. On n'utilise plus de bandes magnétiques et on ne vient plus avec des disques vinyles en studio. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Le numérique a déjà fortement changé la façon dont les médias sont construits, fabriqués.
Qu'est-ce qu'il y a après donc? Parce que le déjà, c'est une chose. C'est pas parce qu'il y a un déjà qu'il n'y a pas un futur.
Ah, bien sûr,
donc, c'est quoi le futur? Le changement de fabrication.
Prédire le futur se plante. Moi, je ne sais pas mon travail et je ne sais pas le faire. Ce que je sais, par contre, c'est que ça nous donne des possibilités d'envisager, de tenir des propos comme on ne le faisait pas avant, et de parler à un public qui, auprès duquel on était peut-être plus tout à fait aussi audible.
Laurent Frisch, donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci,
donc,
Antoine, merci.
Il faut se donner rendez-vous donc, pour les auditeurs à partir de janvier, c'est ça ou...
Non, dès maintenant. Monde.radiofrance.fr. Monde.radiofrance.fr, c'est en ligne.
Voilà. Donc vous pouvez aller voir comment janvier, ça se passe. Et fabriquer votre propre radio. Voilà. Mais pour l'instant, vous êtes sur France Culture, encore et toujours, 12h54.
Quand les bonnes intentions, Antoine, se retournent au point d'heurter les sensibilités qu'elles étaient censées flatter, la commune de Danemarie, dans le Haut-Rhin, avait décidé de célébrer la journée de la femme en installant des silhouettes féminines en contreplaqué dans les rues, sauf que...
Voilà, sauf que elle a été saisie, cette municipalité, par l'association Les Effrontés, et le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait ordonné le retrait de cette installation, donc de ces silhouettes de femmes dans les villages, au nom du respect de l'image de la femme, alors qu'elles avaient été effectivement installées, vous l'avez dit, à l'occasion de la journée de la femme. Alors la municipalité a fait appel devant la plus haute juridiction administrative, et c'est le Conseil d'État qui doit donc maintenant se prononcer. Florence Turme.
Les silhouettes de Danemarie portent-elles atteinte à l'égalité homme-femme, comme le soutien, le mouvement, les effrontés? Et si oui, ce principe d'égalité constitue-t-il une liberté fondamentale qui justifie l'intervention du Conseil d'État? Deux questions que vont devoir trancher les magistrats d'ici la fin de la semaine. Le juge n'est pas l'arbitre des élégances et du bon goût, soutient pour sa part l'avocat de la mairie. En quoi le profil d'une femme à l'ombrelle porte-t-il atteinte à la dignité humaine? Va-t-on dire au musée d'Orsay de retirer le chef-d'œuvre de Claude Monet? En l'occurrence, ce n'est pas cette silhouette que dénoncent les effrontés, mais plutôt ces femmes accroupies dans des postures sexuelles téléchargées sur un site Femmes Sexy. Et quand on représente l'État, on a une obligation d'égalité, plaide-t-elle, elle est là l'urgence. 5 silhouettes peut-être sur 125 au total, rappelle le maire. La présidente intervient, mais seriez-vous prêt à reconnaître que ces 4-5 peuvent prêter à interprétation et donner une connotation générale à l'ensemble? Les parties se séparent sous le grand tableau de la femme allégorie de la justice, mais dans la cour pavée du Conseil, le débat se poursuit en termes beaucoup moins policés.
Après le passage de la tempête Harvey, un couvre-feu décrété hier soir à Houston, plongé sous les eaux pour éviter les pillages dans les milliers d'habitations qui ont été abandonnées. Et la tempête doit remonter maintenant vers la Louisiane voisine. En France, un changement de temps par l'ouest, les températures baissent sensiblement. Donc sur la moitié ouest du pays, il fera toujours chaud à l'est. Il y a encore 6 départements qui sont d'ailleurs classés en vigilance orange. Alerte canicule qui se double d'une vigilance orange orage avec des risques de grêle dans 15 départements du Massif central aux régions du nord-est en passant par la Bourgogne. Édition qui s'achève, réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.